Donc bonjour, on va discuter un peu l'édition de science-fiction en Europe. Je vais d'abord vous présenter Bénédicte Lombardo, directrice de Pocket Fleuve Noir, Pascal Godbillon, directeur de Folio SF, Wolfgang Jeschke, qui a publié notamment en France le jeu de CUS qui a été publié par La Talente, Annette Bertrand-Médoux qui s'occupe des droits étrangers pour La Talente, et Jean-Marc Ni qui est auteur. Donc, c'était un peu, enfin, on va axer sur l'édition française en Europe et allemande, puisqu'on a, on a principalement des intervenants de ces pays. Je vous propose de commencer avec Monsieur Jeschke. Bon, je vous donne le micro. Donc, on présente la situation aujourd'hui de l'édition allemande de science-fiction. Pourriez m'en dire un mot?
Rund heraus zu sagen, die Situation der Science-Fiction in Deutschland ist derzeit sehr schlecht.
Donc juste préalablement pour dire que M. Jeschke, il vient de publier chez nous le jeu de CUS, donc il est auteur connu en Allemagne, mais il a été longtemps aussi éditeur de la fameuse maison d'édition Heim, donc il connaît le monde de la science-fiction des deux côtés. Et ce qu'il vient de nous dire, c'est qu'actuellement la situation de la science-fiction en Allemagne est plutôt triste.
Ich bin zwar jetzt etwa 5 Jahre im Ruhestand, aber ich habe natürlich noch den Markt im Blick. Und ich habe in den letzten Jahren zunehmend gesehen, dass die Fantasy die Science Fiction völlig überwuchert und beiseite gedrängt hat.
Malgré le fait que ça fait 5 ans qu'il est à la retraite, il suit toujours l'évolution du marché. Et ce qu'il a constaté, que c'est de plus en plus la fantaisie qui prend la place à la science-fiction.
Zu einer Zeit, wo die fantastische Literatur ihren Höhepunkt hatte, das war so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, da habe ich bei Heine im Monat 15 Bände herausgegeben. Davon waren 12 Science-Fiction und 3 Fantasy. Und die Situation hat sich heute genau umgekehrt.
Donc, dans les années 70 et 80, ce qui d'après lui étaient les meilleures années pour la littérature fantastique en Allemagne, il a publié
par mois
50 titres, dont 12 étaient science-fiction et 3 fantasy. Aujourd'hui, ça c'est l'inverse. Donc, il y a beaucoup plus de fantasy que science-fiction. C'est peu ou prou ce qu'on constate aussi en France. Hein.
Oui, alors effectivement, la production en fantasy a beaucoup augmenté. En tout cas, en France, le marché de la fantasy est assez florissant par rapport à celui de la science-fiction. Il y a beaucoup de titres, beaucoup de maisons d'édition qui se sont lancées dans des collections de fantasy. En revanche, pour l'instant, puisqu'on parle de SF en Europe, les auteurs européens sont encore assez peu représentés par rapport aux auteurs anglo-saxons.
C'est à peu près la même chose, non, en Allemagne?
Noch schlimmer sieht es bei den Auflagen aus. Autoren, die seit vielen Jahren eingeführt sind und Preise bekommen haben in Science Fiction, die bringen es zu Auflagen vielleicht von 4.000, 6.000, allenfalls 10.000. Denn absolute Newcomer und unbekannte Fantasy-Autoren und vor allem Fantasy-Autorinnen auf Anhieb einmal 100.000, 120.000 Auflagen schaffen.
Oui, donc il y a le même constat qu'en Allemagne, il y a surtout en traduction la prédominance des auteurs anglo-saxons. Et M. Jeschke voit un autre phénomène, c'est qu'au niveau des tirages, des auteurs science-fiction reconnus et qui ont obtenu beaucoup de prix ont des tirages de 4 000, maximum 10 000 exemplaires, et des jeunes auteurs de fantasy débutent avec des tirages de 100 000, voire plus. Est-ce qu'on est dans le même cas en France? On est dans le même ordre d'idée au niveau des chiffres?
Si on est dans le même ordre d'idée, non. Enfin, moi, je ne connais pas il y a très peu de nouveaux venus qui sortiraient nulle part aujourd'hui, dont on tirerait 100 000 exemplaires, même s'ils font de la fantasy. Je ne suis probablement pas le mieux placé pour en parler, mais aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y a un auteur en France, peut-être Kotkain, qui fasse 100 000 exemplaires. Donc non, là, je pense que... J'ai envie de dire peut-être que le rapport est le même, mais les quantités, non. Même si c'est probablement peut-être un peu moins sinistré que ce qu'a l'air de dire M. Jeschke. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu cette inversion du passage d'une prédominance de la SF à une prédominance de la fantasy. Après, j'ai envie de dire, ça reste un marché qui est globalement assez stable, quoi. Maintenant, c'est une question de lectorat aussi. Je pense que le lectorat a évolué. Mais bon, voilà. Après, ce qu'on constate, visiblement, c'est que, comme le disait Bénédicte, c'est que si on replace ça dans un contexte européen, au jour d'aujourd'hui, les traductions, et visiblement c'est la même chose en Allemagne, se font à 95%, à partir du monde anglo-saxon. Après effectivement, la Talente fait un gros travail sur la fantasy, la SF espagnole et allemande. En son temps, Rivage, et puis maintenant, derrière repris par Pocket, a traduit Valerio Evangelisti d'Italie, etc., etc. Mais de fait, majoritairement, la traduction vient des États-Unis ou d'Angleterre. Après, Jean-Marc Cligny est un exemple d'auteur français qui s'exporte plutôt bien, pour ce que j'en sais. Et donc il pourra peut-être nous en parler de manière plus détaillée. Cela étant, je ne sais pas trop, je ne connais pas trop l'état des traductions françaises vers l'étranger, vers l'Allemagne par exemple. Là, Jean-Marc, es-tu traduit en Allemagne?
C'est en cours, oui, pour AquaTL. C'est même bientôt fini, je crois. Au niveau de l'Allemagne, j'ai eu aussi une nouvelle publiée dans un recueil d'une anthologie d'Andreas Eichbach. Et je pense qu'ils sont en train de s'intéresser peut-être à la Djihad et en tout cas à mon prochain roman chez la Talente qui n'est pas encore écrit, mais qui les intéresse déjà, donc ça je suis plutôt content. Oui, pour moi c'est une très bonne nouvelle d'être traduit en Allemagne. J'ai eu deux bouquins aussi en Italie, dont Djihad et puis une anthologie cosmique erotica.
En Espagne aussi.
Et AquaTM est en cours de traduction en Espagne aussi. Et je pense que je peux le dire qu'il va être sans doute publié en Chine également. Donc, il suit une bonne carrière. Moi, je pense que... Je ne crois pas que ce soit dû à une amélioration soudaine du marché des exportations françaises. Je pense que c'est surtout dû au travail remarquable de la Talente et de la ici présente. Que je remercie la
jeune
Si d'autres éditeurs auparavant avaient fait le même travail, peut-être que d'autres bouquins parus chez De Noël notamment auraient pu avoir une carrière peut-être plus internationale ou en tout cas européenne. Je crois que, j'espère que c'est en train de changer, mais je crois que pendant des années, il y a eu peut-être une certaine frilosité du milieu éditorial français qui estimait peut-être à tort, enfin certainement à tort, ne pas être vraiment en mesure de pouvoir s'exporter à l'étranger, hormis les auteurs des best-sellers. Et en revanche, pour tout ce qui venait d'outre-Atlantique, a priori, pain béni et susceptible de traduction. Je crois que c'est en train de changer, qu'on est en train de se rendre compte que l'Europe existe et qu'une Europe culturelle est possible et que des échanges entre les divers pays d'Europe dans le domaine qui nous intéresse, donc c'est-à-dire essentiellement les littératures et l'imaginaire, est non seulement possible mais souhaitable et profitable à tous les acteurs, aussi bien français qu'étrangers. Alors je ne sais pas si c'est un peu pieux que je formule ou si c'est une tendance que je pressens, ça les éditeurs peuvent me confirmer peut-être.
Je voulais juste revenir dans le sujet. Jeschke qui justement nous disait qu'en Allemagne, la SF française avait eu quand même du mal, notamment dans les années 80, qu'il avait essayé de publier notamment René Barjavel. Et que le lectorat allemand avait finalement. Enfin, que pour le lectorat allemand, la SF française avait une part d'horreur.
Ja, es gibt so Marktmechanismen und in Deutschland ist folgendes der Fall. Die amerikanische SF hat den deutschen Markt und die deutschen Leser sehr früh geprägt. Und ich habe jedes Jahr versucht, ein paar Franzosen zum Markt zu bringen. Ich musste es immer wieder fallen lassen. Unsere Vertreter haben nicht mitgezogen. Die sagten, das wird nicht gefragt. Ich habe mir oft überlegt, an was könnte das liegen? Und ich hatte immer den Eindruck, die französische Science Fiction hat so einen Touch Horror. Und das mögen die, die von Asimov herkommen, nicht. Und hat auch einen Touch mehr Sex. Und das mögen die Leser von der klassischen amerikanischen Science Fiction, sind das nicht gewöhnt und wollen das nicht haben.
Donc, d'après lui, la science-fiction, les lecteurs de science-fiction allemands sont très conditionnés par les auteurs américains et sont assez frileux en ce qui concerne des nouveautés ou une science-fiction qui n'est pas dans les schémas qu'ils connaissent. Donc, à chaque fois que M. Jeschke a essayé de publier des Français, ça a été apporté dans le projet parce que les diffuseurs ont dit non, on n'arrivera jamais à les distribuer à le vendre. Et il a des suppositions, mais dont il n'est pas du tout certain, c'est que dans la science-fiction française, il y a toujours un peu plus d'horreur que dans, par exemple, Asimov. Il y a toujours un peu plus de sexe. Donc est-ce cela, c'est des idées qu'il s'en fait, mais il n'a pas de réponse concrète. Je pourrais juste ajouter quelque chose, ça rejoint et mes confrères français vont me dire si je me trompe ou pas. J'ai l'impression que des livres, comme écrit Jean-Marc, le jeu de plus de Kanyeshka, sont plus facilement exportables parce qu'ils s'éloignent peut-être de la science-fiction pure et dure. C'est pas de la science-fiction conceptuelle, mais ça se rapproche plus du mainstream et c'est des questions écologiques, des thrillers futuristes qui passent plus facilement les frontières parce qu'ils s'ouvrent peut-être à un lectorat plus grand que la science-fiction traditionnelle.
Donc pour rebondir sur ce que disait Annette et Jean-Marc, effectivement, je crois qu'on commence en France à essayer de défendre nos auteurs français à l'étranger, et notamment en Europe avant tout, en sachant que la prédominance anglo-saxonne est quand même puissante depuis longtemps dans le milieu de l'édition des littérature de l'imaginaire. Mais aujourd'hui, effectivement, on commence petit à petit à vraiment essayer de pousser nos auteurs, et notamment des auteurs qui ont des récits, que ce soit en fantasy ou en science-fiction, qui sont après tout aussi exportables qu'un roman américain, qu'un roman anglais, australien, qu'il y a de bons personnages, des thèmes intéressants, actuels, des choses universelles qui parlent à tous. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que finalement, c'est un vrai travail, et ça, je demanderais peut-être à Ned d'en parler plus longuement, de défendre les auteurs à l'étranger. Ça signifie créer un réseau de contacts dans plusieurs pays, de rencontrer les gens, de leur parler des livres, de leur parler des auteurs, d'essayer justement de passer outre cette marée anglo-saxonne qu'on connaît tous en Europe. C'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, parce que moi je connais beaucoup d'auteurs anglo-saxons, mais il y a un vrai travail à faire auprès des éditeurs étrangers pour leur communiquer notre passion de la littérature française, des littératures de l'imaginaire française. Et c'est un travail vraiment de longue haleine. Là, moi je sais que tout récemment, un service de droit étranger a été créé chez Univers Poche, donc pour Fleuve Noir, entre autres, et que moi jusque-là, je faisais ce travail très très peu avec les quelques éditeurs étrangers que je connaissais, et aujourd'hui on a des gens qui vraiment passent leur temps à faire ça, et ça demande vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Et moi j'ai eu le plaisir de voir par exemple Jean-Pierre Andrevon traduit en Espagne, Christophe Lambert également, donc c'est un début, et je pense que ça progresse et qu'on est dans une bonne voie pour vraiment créer des échanges en Europe entre nos différents auteurs. Voilà, mais c'est vraiment un travail très particulier. Je pense qu'Annette, si tu veux en parler un peu de la façon dont tu travailles sur le...
Juste pour continuer sur ce que tu dis est très vrai. Je pense qu'il y a un moment où il y a effectivement aussi une relation de confiance qui s'installe entre les personnes qui vendent les livres à l'étranger et les éditeurs locaux, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc. Mais ce qu'il faut bien voir, cette prédominance anglo-saxonne, elle est liée tout bêtement à un phénomène assez simple, c'est que je lis l'anglais, mais aucune autre langue. Et bien, en Allemagne ou en Italie, en Espagne, etc., tout le monde quasiment va lire l'anglais, mais pas forcément le français, l'espagnol, l'italien, l'allemand, etc. De fait, c'est obligatoirement vers le vivier anglo-saxon qui, en plus, est suffisamment large pour alimenter quasiment le catalogue de n'importe quelle collection, qu'on va se tourner. Donc la difficulté et l'Atalante a réussi, d'autres, Bénédicte parle en espagnol et éventuellement peut tenter d'aller voir vers le marché espagnol, mais c'est vrai que la difficulté première en tant qu'éditeur français, c'est de pouvoir aller parler la langue, sauf à faire une confiance aveugle, et je reviens sur la confiance à l'éditeur ou à l'agent qui vend un titre, mais ce problème linguistique, il est réel. Moi, je ne demande pas mieux demain de publier un auteur italien, polonais, turc, si on veut inclure la Turquie dans l'Europe. De fait, je ne parle aucune de ces langues.
Mais justement, je pose la question, est-ce que ce ne serait pas à l'éditeur aussi, aux éditeurs de n'importe quel pays, de se rendre compte qu'effectivement l'Europe n'est pas une région monolinguistique, et de faire en sorte d'avoir, sinon dans leur équipe, du moins dans leur réseau de relations, de lecteurs, etc., au moins les langues principales, hormis l'anglais, quoi, de pouvoir se dire, oui, bon voilà, il y a un auteur italien par exemple, bon, ben, moi je ne lis pas italien, mais j'ai un lecteur italien, où je connais des gens qui peuvent me faire une critique, qui peuvent lire l'italien et faire, effectivement, ça implique de faire confiance au lecteur, dans la mesure où on n'y prend la langue. Mais de toute façon, on fait confiance, l'éditeur, a priori, doit faire confiance à ses lecteurs, même pour un manuscrit français, parce qu'il ne va pas lire, évidemment, tout ce qu'il reçoit. Donc, déjà, l'écrémage et la sélection se fait par les lecteurs des maisons d'édition. Et est-ce que les maisons d'édition, justement, ne doivent pas... A priori investir ou du moins créer dans leur réseau de relations au moins avoir un représentant de chaque langue quasiment importante de l'Europe, donc l'italien, l'espagnol, l'allemand, éventuellement une langue scandinave, et puis ce qui permettrait effectivement de pouvoir lire autre chose que l'anglais, parce qu'effectivement tout le monde lit l'anglais. Ou alors, il faudrait que tous les manuscrits passent par un criblage, une traduction anglaise préalable, mais non, ça, j'y crois pas.
Je peux difficilement répondre à ça, parce que m'occupant d'une collection de poche, je suis assez peu concerné par la publication d'inédits, et donc, pour ma part, la chance de pouvoir lire directement en français les choses qui ont été traduites, mais de fait, majoritairement, le saxon. Je suis assez d'accord sur ce que tu dis. Au bémol près qu'on en revient toujours à ce problème de marché et que au final, puisque l'investissement dont tu parles, en gros la chandelle, il y a une notion de risque à prendre qui, pour un éditeur de grand format, enfin, il pourra peut-être préciser ou même affirmer ce que je suis en train de dire, qui finalement n'en vaut peut-être pas la chandelle. Quoi. Est-ce que le risque vaut le jeu? Je ne sais pas.
Je ne parlerai même pas du risque financier, mais le problème, c'est en théorie, je soutiens ce que tu viens de dire, mais le problème, c'est vraiment de trouver les lecteurs, parce qu'il faut très bien cibler. Moi, j'ai du mal à trouver quelqu'un qui puisse me dire l'italien, et l'italien, c'est pourtant pas une des langues les plus éloignées, les plus difficiles à trouver, mais il faut que ce soit aussi quelqu'un qui aime bien la science-fiction, qui connaissent les formes pour savoir est-ce que c'est original, est-ce que je lis, ou c'est une énième lecture du même sujet. Il doit connaître le marché français en disant, bon, je viens de lire un livre excellent, mais je ne le vois pas chez nous pour autant. Donc, cette lecture, ça paraît très facile. Bon, on lui file quelques livres, lui, il aime bien lire, donc ça se passe pas bien. Mais c'est extrêmement difficile de trouver quelqu'un à qui on peut vraiment faire confiance pour, après, prendre le risque du coup de traduction et de la publication.
Oui, alors, moi, je suis dans le cas un peu particulier où je travaille dans une grande maison et où je n'ai donc pas de lecteur. C'est-à-dire qu'il y a un comité de lecture pour tout ce qui est hors imaginaire, le polar, la littérature française, tous les autres genres. En SF et fantasy, je lis toute seule et en gros, on demande de se débrouiller toute seule. Donc je lis à peu près, enfin, pas tout, ce qui m'arrive évidemment, mais je fais le tri. Et je ne peux pas avoir de lecteurs dans le sens très pragmatique où je ne peux pas les payer, puisque je n'ai pas de budget pour payer de lecteurs. Donc, de temps à autre, évidemment, je peux faire appel à des traducteurs que je connais bien, qui peuvent me parler de livres qu'ils ont lus et me les conseiller. Mais effectivement, il faut un vrai rapport de confiance. Mais ça reste encore assez difficile, parce qu'il faut trouver les bonnes personnes. Et effectivement, quand on ne lit pas certaines langues, moi j'ai toujours un peu de mal à dire, j'ai publié un auteur dont je n'ai pas lu moi-même le livre. Ça peut arriver, mais il faut vraiment que je sois très très convaincue. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que je pense que c'est à peu près la même chose pour la plupart de mes collègues, mais on reçoit très peu de livres, directement de livres allemands, de livres espagnols, de livres italiens, parce qu'il y a aussi ce système en France d'agents, qui sont donc les agents français, qui sont les sous-agents des éditeurs ou des agents étrangers, qui nous inondent de livres en anglais, et finalement qui sont spécialisés en éditeurs anglo-saxons, et donc finalement on reçoit assez peu d'autres livres. Moi, ça m'arrive de recevoir de temps en temps un livre en allemand parce que j'ai fait la connaissance d'un agent qui défend des auteurs allemands en France, mais c'est quand même assez rare. Donc il y a aussi ce côté comment est-ce qu'on va les découvrir, alors on entend parler sur le net, etc., mais ça reste encore assez peu les livres sont encore assez peu diffusés chez les éditeurs directement.
Ce que tu dis, Bénédicte, est vrai, et en plus, quand on a finalement un agent qui un jour, comme ça m'est arrivé récemment, nous envoie un manuscrit, alors en l'occurrence en russe, bon, même avec la meilleure volonté du monde, je ne lis pas le russe, Et en faisant son boulot d'agent, ça veut dire c'est le livre du siècle, il s'en est vendu des millions d'exemplaires en Russie, vous avez cartonné, ça a déjà été auditionné 3 fois par Hollywood, etc. Donc, alors c'est aussi, est-ce que tu lui as cru une seule seconde ou pas, je ne sais pas, par contre, c'est le boulot d'agent de vendre son cas, donc c'est très difficile de faire confiance, et les lecteurs russes, c'est difficile à trouver. Donc comment dire sur ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai vu lire une fois un manuscrit italien à quelqu'un que je connais, qui est d'origine italienne, donc il est très bien italien, mais qui n'avait jamais lu le SF. Il m'a dit, oui, c'est intéressant, il y a des choses intéressantes sur la réalité, etc. Je dis, oui, mais bon, enfin, voilà, j'étais pas plus avancé parce que la personne ne connaissant pas la SF, ne pouvait pas me dire si ça correspondait à quelque chose de vraiment nouveau ou une imitation de Philippe Kadic, ou bref, j'en savais rien. Ce qui m'intéresserait de savoir, tout à l'heure, M. Ilechka disait qu'il avait essayé de publier des auteurs français, comment en avait-il eu connaissance?
Français sont venus essentiellement de conseils de maisons d'édition amies où il a rencontré les auteurs sur des conventions de science-fiction. Il y a un dialogue qui est né de ça.
Au moment où le marché est schwächer wird, versuchen die Agenten natürlich trotzdem ihr Geschäft zu machen und da fällt dann alles raus und schieben es über die Tischkante runter, was ihnen kein Geld einbringen wird.
Et donc comme le marché actuellement est très très serré, les agents choisissent très bien ce qu'ils proposent, c'est-à-dire tout ce qui peut leur rapporter de l'argent et tout le reste qui passe en dessous de la table.
Ich wollte noch auf was anderes zu sprechen kommen, nämlich auf die Backlist. Ich habe mich gestern oben in das alte Lingrad umgeschaut und habe gestaunt und fast ein bisschen neidisch gewesen. Was Backlisten sind. Sie kriegen zurzeit in Deutschland keinen Roman von Selesny, Disch, Branagh, Jack Vance. Das stimmt einem traurig, dass eine ganze Generation aufwächst, ohne diese höchst interessanten Autoren kennengelernt zu haben. Während hier oben habe ich sie alle gefunden, oder fast alle gefunden.
Oui, donc Wolfgang Eschke, il était presque jaloux hier en parcourant la librairie parce qu'il a retrouvé plein de titres qu'il ne trouve plus en Allemagne actuellement. Donc, c'est-à-dire tous les fonds des maisons d'édition ne sont pas réédités. Ils sont de Rich, Jack Vance, je ne sais pas les autres cités.
Zelazny.
Sont actuellement introuvables en Allemagne, tandis qu'en France, on a quand même toujours les classiques disponibles.
Ich kenne mich im französischen Verlagswesen nicht so aus, aber in Deutschland hängt es sicher damit zusammen, dass eine starke Konzentration stattgefunden hat. Fast alles, was an utopischer Literatur erscheint, ist entweder bei Lübbe oder Rendermhaus, oder es sind kleine, unbedeutende Verlage. Und in den großen Verlagshäusern wie Rendermhaus werden die Programmentscheidungen gefällt von Leuten, die von der Materie nichts verstehen, sondern einzig und allein das Kriterium der Verkaufszahlen zählt. Und das macht einem Lektor sehr, sehr schwer, Autoren zu pflegen und Autoren aufzubauen.
Donc, ce qu'ils déplorent en Allemagne, c'est qu'actuellement, au niveau de la littérature fantastique, il y a une très forte concentration. Donc, il y a essentiellement le groupe Random House, auquel appartient Heim, et notre maison assez grande de Lübe, et puis plusieurs très petites maisons d'édition. Et dans les grands groupes, les décisions sur les titres sont prises par des gens qui ne connaissent rien au sujet ou à la littérature, mais le seul argument, c'est les estimations de vente. Est-ce que vous penserez la même chose en France ou on est encore un peu préservé ça?
Non.
Alors, en ce qui concerne ce qu'on disait sur les auteurs classiques qui sont plus traduits en Allemagne, nous, en France, il y a quand même un vrai travail de remise à jour de tout un tas d'auteurs de fond, de classiques, que ce soit chez des grands éditeurs, en poche, par exemple, chez Folio SF, ou chez des éditeurs, chez des petits éditeurs. Je pense bien sûr aux éditions de Bélial, par exemple, mais c'est aussi le cas dans de grandes maisons, comme chez Brajlon, qui vient de lancer une collection qui s'appelle Les Trésors de l'ASF, qui réédite des auteurs très connus. Donc, quand même, en France, on entretient des grands auteurs, français, étrangers. Donc, je pense que pour le moment, effectivement, même s'il y a encore, il y a toujours ce côté financier très, très prégnant, mais on a malgré tout, on fait vraiment un. Je pense quand même encore un vrai travail d'édition de fond. Et oui, tout à fait, le patrimonial aussi, oui. Donc je pense que c'est nécessaire, essentiel. Voilà, peut-être Pascal pour en dire quelque chose, puisque tu diriges une collection qui est basée essentiellement sur des classiques.
Oui, essentiellement, oui, en grande partie. C'est, je pense que, je ne sais pas si c'est, parce que c'est vrai que je connais finalement assez peu les marchés étrangers, n'étant pas directement concernés, je veux dire, mais j'ai l'impression que ça reste une spécificité française, c'est-à-dire que le marché anglo-saxon ne cultive pas ou peu son fond, enfin, à ce que j'en vois, et à ce que nous en disent les auteurs anglo-saxons, enfin. Quand on les rencontre, effectivement, c'est du coup la même chose, évidemment, pour l'Allemagne, c'est-à-dire qu'ils sont très surpris de voir donc, des titres qu'ils n'ont pas vus dans leur pays depuis des années, quoi, voire même depuis leur parution originelle. Donc, spécificité française, alors pourquoi, je ne sais pas, mais ça me semble important parce que la SF, Jean-Marc me démentira peut-être, mais il me semble que c'est quand même un genre assez. Autoréférentiel, où finalement les auteurs se répondent les uns les autres avec des thématiques qui se retrouvent, et finalement, quelquefois l'idée de se dire, tiens, ça a déjà été fait, mais moi, comment je ferais si je traitais la même idée, etc. Est-ce que bon, ça me semblait pourtant pas être très franco-français, ça, comme idée, mais bon, finalement, j'imagine que les auteurs. Anglo-saxons ou allemands qui veulent avoir accès aux textes anciens de Dich ou d'Abdis ou de choses comme ça, ils arrivent finalement, mais je ne sais pas.
Moi, je crois que ce qui est bien franco-français comme idée, par contre, c'est le fait que la culture a une histoire. Qu'on ne réinvente pas la littérature chaque année et que, effectivement, même une littérature comme la science-fiction puise ses idées actuelles. Évidemment, non seulement dans le monde actuel, mais aussi dans tout ce qui a été fait avant. Que les auteurs de SF ont une culture de SF, forcément, en général. Et donc, dans n'importe quel débat, interview ou question qu'on peut poser à un auteur, il va toujours à un moment citer des références classiques en disant que sans avoir lu machin ou sans être inspiré d'un tel, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait, etc. Donc ça incite les lecteurs qui s'intéressent à ces auteurs-là aussi de retrouver leurs influences. Et donc il y a toujours en France, je pense, une demande de ce fonds classique. Parce que bah, les éditeurs, ils sont là aussi pour faire de l'argent. Hein. Et donc si les fonds classiques ne se vendaient pas, bah, ils ne seraient pas republiés en France. Malgré toute votre bonne volonté, je veux dire. Bon, vous avez des chefs, il y a des directeurs commerciaux au-dessus de vous, qui dépendent. pas, cause est un peu bizarre. Donc, moi, je pense que si les fonds classiques sont réédités, indépendamment de la farouche détermination des directeurs et prise de collection, c'est bien parce que ça continue de se vendre. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment une spécificité française de considérer que la SF n'est pas la cuisse de Jupiter tous les jours, tous les ans, qu'il y a un vrai fond culturel qui continue d'être d'intéresser même les jeunes lecteurs, hein, même un gamin de 18 ans qui va sortir son premier bouquin de SF, va pas forcément être le dernier John Eliot ou Catherine Dufour. Des fois, il va retomber dans les vieilles fondations, ou un bon vieux Philippe Cadic, ou un bon vieux Grand Bob des familles, et puis découvrir la SF à travers ça. Même si après, il va tout de suite aller vers des trucs plus modernes, plus cyberpunk, plus en accord avec sa culture actuelle, mais ce fond est toujours lu et fait partie de la culture française, pas de la culture de SF en France, moi je pense.
Est-ce à dire que ça viendrait d'un fond plus général en France, en tout cas spécifique, qui est qu'on est plus rattaché à un patrimoine littéraire?
On a un vrai patrimoine littéraire, on a l'habitude, enfin on est éduqué à lire le classique, hein. Ne serait-ce que par l'école, quoi. On continue d'étudier, Zola, Hugo, Passant, Dumas, Jules Verne, etc., enfin, des auteurs classiques à l'école. Donc on n'est pas conditionné, parce que ce n'est pas encore un conditionnement, mais on est néanmoins encouragé, incité à avoir un fond de culture classique. Et en SF, c'est pareil. Moi, je dirais que le vrai fan de SF, quelque part, se doit peut-être de posséder un minimum de culture classique pour savoir de quoi il parle. Pas bon. C'est une opinion personnelle. Moi, je sais que je fonctionne comme ça, je connais d'autres qui fonctionnent comme ça, et j'ai l'impression que c'est plus effectivement un sentiment plus français, ou du moins latin, que anglo-saxon, par exemple. J'ai l'impression que les anglo-saxons vont encenser l'auteur à la mode de l'année, mais assez vite oublier que cet auteur à la mode n'existerait pas s'il n'y avait pas eu derrière un certain nombre d'auteurs qui ont écrit chez le terrain avant lui. Hein.
Justement, M. Jeschke, est-ce que quand vous disiez qu'il y avait moins, c'était plus l'édition, les classiques n'étaient plus spécifiquement trouvables en Allemagne. Aujourd'hui, c'est à cause de la prédominance aussi de la fantaisie qu'on a vu disparaître ces classiques, ou c'est un goût qui a changé chez les lecteurs allemands?
Donc l'estimation de vente du fond n'est pas assez élevée pour justifier des réimpressions. Mais ce n'est pas forcément dû à la fantaisie. Aux nouveautés qui suivent, donc qui chassent très vite le fond des étagères.
C'est un problème finalement, parce que justement, vous voyez que c'était peut-être une spécificité culturelle en France qu'il y a un patrimoine, enfin, que le patrimoine garde beaucoup de valeur et continue à se vendre, alors qu'en Allemagne ce ne serait pas le cas, c'est ça?
dass man schon seine hat. Also die Klassik spielen in Deutschland nicht die Rolle. Die Märkte sind halt doch in Europa sehr verschieden. Und wie gesagt, das hängt damit zusammen, dass die Sprachbarrieren zu hoch sind. Erst wenn ein Buch auf Englisch erschienen ist, dann hat es eine Chance. Ich habe es bei meinen eigenen Romanen bemerkt. In dem Moment, wo sie auf Englisch erschienen waren, waren plötzlich Anfragen aus Italien, Spanien, den Niederlanden. Und das zeigt mir, dass die Lektoren eben nur den englischen bzw. amerikanischen Markt verfolgen und meist auch diese Sprache nur lesen.
Oui, donc effectivement, on pourrait parler d'une différence de mentalité, que les classiques n'ont pas la même valeur en Allemagne qu'en France. Et ce qu'on avait évoqué tout à l'heure aussi, c'est pour tout ce qui vient en niveau traduction, que les barrières linguistiques à l'intérieur de l'Europe paraissent beaucoup plus élevées que par rapport aux États-Unis et l'Europe. Et ce qu'il a vu par rapport à ses propres titres, dès qu'il y en avait un qui avait été traduit en anglais, publié en anglais, il y avait des demandes d'éditeurs espagnols, italiens, qui avant ne s'y étaient pas du tout intéressés. Je vois ça aussi pour mon travail, pour Jean-Marc, c'est une heureuse exception, que ça passait d'abord en allemand, en espagnol, mais souvent, si vous nous recontacterez dès que vous aurez un texte en anglais, et après, on pourrait peut-être en parler, mais il y a d'office le blocage, on n'a personne qui dit français, et au moment de la traduction en anglais est en quelque sorte un label qualité.
D'accord, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'il vaut mieux pour un auteur français finalement ou un auteur allemand d'abord se faire publier en Angleterre ou aux États-Unis pour ensuite revenir en Europe et avoir une plus de chances de publier en Espagne, en Allemagne, en Italie. Oui, c'est ça?
Mais on en revient au problème du réseau de lecteurs que j'évoquais tout à l'heure qui fait que malheureusement pour traduire à vous écouter, on a l'impression que pour traduire un roman français, par exemple, en Espagne, il doit d'abord passer par le monde anglo-saxon pour que les Espagnols puissent le lire en anglais. Moi, je trouve ça, je trouve que c'est beaucoup une perte de temps, quoi. Et du coup, on a l'impression que c'est un coup de chance si, en France, on connaît des auteurs comme Valerio Evangelisti, André Lasserre, Bonnecamp, Jeschke, ou Javier Negrete. Du coup, on se demande, mais comment ils ont pu arriver jusque-là, quoi, parce qu'ils n'ont pas été forcément traduits en anglais auparavant. De même, pour les romans français, vraiment, ma première édition à l'étranger, c'était Djihad en italien, et ça s'est fait parce que j'ai rencontré personnellement l'éditeur Fanucci, parce que je lui ai parlé, effectivement, en moitié anglais, moitié français, et avec beaucoup de gestes et de gesticulations de Diane, et qu'il a été séduit uniquement par mon discours, il l'a publié sur le livre finalement. Enfin, il l'a lu forcément parce qu'il a été traduit, mais on a l'impression que ça, c'est une espèce de système artisanal qui fonctionne à la rencontre, au coup de chance, ou éventuellement au chiffre de vente. On sait que c'est une belle Rio, Evangelisti fait 100 000 ventes en Italie, enfin, je ne sais pas les chiffres, hein, mais on a des chances qu'il y a quelques succès en France, mais on n'en est pas certain. Donc un auteur d'un pays peut avoir un énorme succès dans son pays, faire un flop total à l'étranger, parce qu'il n'est pas de la même culture, simplement, quoi. Et on va se dire, bah, tiens, je pars à marcher en France, finalement, on ne sait pas trop pourquoi, notamment, et comment il est arrivé jusque-là, quoi.
Je pense qu'il y a vraiment deux choses, Jean-Marc. Il y a effectivement cet aspect de barrière linguistique, et une autre chose qui est, mais uniquement qui repose que sur le préjugé, à savoir la SF est anglo-saxonne. Et hors SF, enfin américaine ou anglaise, point de SF. Donc si tu associes ces deux facteurs, et qu'on retrouve dans ce qu'a dit M. Hachka tout à l'heure, c'est-à-dire non, parce qu'on estimait que les auteurs français, il y avait trop de sexe, trop d'horreur, machin, Bon, c'était peut-être représentatif des quelques auteurs qui avaient peut-être réussi à percer là-bas, mais
finalement, on va juger.
Et voilà, mais malheureusement, tous, et pas qu'en SF, on est lié par ça, c'est-à-dire ces deux facteurs, quand je dis on, c'est parce que c'est des préjugés que tu retrouves chez les lecteurs.
Non, chez les diffuseurs.
Chez les lecteurs aussi. Chez les lecteurs aussi, combien de fois j'ai rencontré des gens me disant oui, mais bon, les auteurs français sont ceci, cela, machin, et, bah, est-ce que vous avez lu tel auteur, est-ce que... Non, on est bien dans l'ordre du préjugé, et que tu le veuilles ou pas, les ventes, elles se font grâce au lecteur. Mais si le lecteur il a décidé qu'un auteur français, ça ne lui plairait pas, t'auras beau sortir un auteur français en Allemagne, si ça ne lui plaît pas, ça ne lui plaira pas, quoi, il n'achètera pas. Et du coup, le préjugé deviendra... sera validé par la méhonte. Enfin, tu vois, c'est une espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire que parce que je crois que la SF française est forcément moins bonne que la SF anglo-saxonne, je ne vais pas l'acheter. Et l'éditeur qui va prendre le risque, il ne va pas les vendre. Et du coup, ce préjugé sera renforcé, elle est forcément moins bonne puisqu'elle ne se vend pas. Et fin de l'histoire de la SF française en Allemagne.
Mais néanmoins, il y a eu quand même d'intéressantes tentatives. Et je dirais que le festival Utopia a été à la base un peu créé dans ce but-là, de favoriser les rencontres internationales entre auteurs et éditeurs d'Europe. Bon, ça tend un peu à disparaître dans les dernières éditions, j'ai l'impression, mais au début, bon, bah, il y a eu des anthologies internationales, européennes et multilinguistiques. Bon, c'était pas rien à faire, parce qu'il fallait effectivement trouver des lecteurs et des traducteurs de langues aussi exotiques que le croate ou le roumain, mais ça a été possible. Bon, je ne dis pas que c'est un succès en termes... Voilà. Mais néanmoins, comme tu dis, c'est un sort vicieux, mais si les éditeurs eux-mêmes, qui sont quand même les acteurs du marché, n'essayent pas de modifier ces préjugés peu à peu, quoi. C'est un travail de longue haleine, comme ça a été un travail de très longue haleine pour réussir à faire que la SF soit une littérature viable et que les auteurs puissent en vivre. Hein. Maintenant, on va arriver à ce que les Français considèrent que la SF peut aussi être allemande, espagnole, italienne, scandinave, roumaine ou polonaise. C'est une question d'éducation qui se fait effectivement par un travail de longue haleine, des traductions, de ne pas hésiter à des fois vendre des bouquins internes. On a quand même eu des auteurs européens qui ont connu un succès mondial, même à Stanislav en Europe, Anna Stapledon, il y a eu des auteurs qui ont réussi à faire leur trou, je dirais, hein, indépendamment de la barrière de la langue. Alors peut-être parce qu'ils ont été traduits dans un pays anglo-saxon au départ. Mais quand on sait, l'ostracisme culturel du monde anglo-saxon en général, c'est pas une solution qu'on peut retenir à long terme, d'attendre que le bouquin soit traduit en anglais pour arriver à ce qu'il soit ensuite publié en Allemagne, en Italie ou en Espagne.
D'accord. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes s'il y avait des questions. Je souhaite vous poser. Vous parliez quand même de vente tout à l'heure de la SF et de la fantasy. En général, pour tous les éditeurs qui sont là, à partir de combien de ventes est-ce que vous estimez que ça commence à être une bonne vente en SF ou en fantasy?
Alors, c'est une question un peu compliquée, parce que ça dépend de ce qu'on appelle un compte d'exploitation, donc c'est pas très sexy, mais c'est en fait à partir du point mort qu'on doit atteindre sur les ventes. Donc ça dépend déjà s'il y a des frais de traduction, ça dépend du tirage qu'on fait, c'est-à-dire à quel point on croit au livre. Si c'est un auteur français, évidemment on n'a pas les frais de traduction, il y a aussi les avaloirs qu'on verse aux auteurs. Donc une fois qu'on a rentré tous ces paramètres financiers, on sait qu'on doit atteindre déjà un seuil de vente pour équilibrer ce qu'on a mis dans la balance. Maintenant, en dehors de ce point de vue purement pragmatique, moi je sais que quand je commence à dépasser déjà 2000 exemplaires sur un auteur de SF ou de fantasy, je suis très contente. Et c'est déjà pas mal. Alors effectivement, si c'est sur une traduction de 600 pages, 2000 exemplaires, je sais que ça va être très difficile de convaincre ma hiérarchie de continuer à publier l'auteur derrière. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'estime que quand on a déjà 2000 lecteurs, c'est déjà une bonne chose. Voilà. On se contente pas moi, je me contente. J'essaye de me contenter d'assez peu. Mais bon, il n'est pas trop loin.
Oui, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, la rentabilité d'un livre, finalement, on s'en fiche. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut très bien rentabiliser un livre à 4000 exemplaires et puis. Un autre qui va vendre 20 000, ne pas le rentabiliser, ça dépendra de ce qu'on a payé pour faire ce livre, enfin, une fois qu'on a intégré la publicité, etc. Donc, mais si on ne rentre pas dans ces considérations, je pense qu'effectivement, à partir de 2000 en grand format et à partir du double en poche, grosso modo, on commence à rentrer sur des ventes qui sont très correctes. Et en Allemagne, à partir de combien considère-t-on qu'on a une bonne vente en SF ou fantasy?
Würde ich sagen, man muss ein Buch über 3000 kommen und ein Taschenbuch über 6000.
Donc en Allemagne, les seuils sont un peu plus élevés en première édition. Il faut savoir aussi qu'en Allemagne, les livres sont reliés. C'est pas broché, grand format, mais c'est relié. Donc en première édition reliée, il pourrait arriver à 3000 et en poche à 6000 exemplaires. Il y a une deuxième question?
Bon, une remarque plus qu'une question. N'hésitez pas, M. Leschke, à parler des livres qu'il n'a pas pu publier à cause des préjugés du pouvoir des diffuseurs, parce que les ventes sont malgré tout extrêmement contrôlées en France et dans tous les pays par les diffuseurs. Il y a des collections qui ont été faites. Parce que le fait que les diffuseurs ne les ont pas mis sur les rayons alors que les livres auraient pu intéresser les lecteurs sont plus ou moins contrôlés par la volonté des diffuseurs. Or, donc la part de ce rôle des diffuseurs c'est pas aux éditeurs sur les éditeurs
qu'il faut qu'est-ce que vous appelez les diffuseurs hein?
les diffuseurs, ça va du directeur commercial qui met le livre en place jusqu'au diffuseur qui le transmet au libraire. Or, ce diffuseur a une idée a priori, il a des préjugés tellement forts sur quel département à Zimov, quel livre ne va pas prendre n'importe quel cas. Et on a vu des collections tuées par le fait que les diffuseurs laissaient des livres dans les...
Ça correspond pas vraiment à ce que je constate au quotidien. En plus, pour travailler avec un diffuseur, pour qui la SF n'a vraiment qu'un impact très limité, tous les livres que je fais sont défendus, je dirais, comme ils le doivent. Un ouvrage comme l'Ordre du Contrevent, qui est assez, je dirais, symptomatique de ce que peut être une très bonne vente sur le marché de la SF et de la fantasy en France, a été travaillé par la diffusion Gallimard comme il devait l'être, et a touché son public très largement. Et d'ailleurs, a déjà épuisé trois traducteurs en Italie, pour rattacher ça à la thématique de l'interlocuteur. Donc, moi, je n'ai pas le sentiment que ça corresponde à quelque chose. Un livre, s'il sort, il sera défendu par son diffuseur, sinon il ne sort pas. Mais voilà.
Je vous remercie. Merci beaucoup.